toujours dans la cour du musée Calvé, mais de manière un petit peu... manifestation plus récente, puisqu'elle n'a que 3 ans,
oui.
Avec un principe similaire depuis 3 ans, c'est faire lire aux auteurs eux-mêmes leur propre texte. C'est toujours des moments, j'imagine, de fragilité. Est-ce que les auteurs acceptent facilement, comme ça, de livrer par leur voix leur texte à peine fini?
Ben, je vous dirais que c'est une opération, enfin c'est une manifestation qui a quelque chose de un peu du fil de feriste. Hein. C'est un petit peu tout à coup un auteur qu'on remet à sa table de travail et il a passé tout seul l'écrit et là il va passer tout seul l'oral. Ça aurait pu d'ailleurs, sauf que naturellement ça peut être pris dans un autre sens. Ça aurait pu s'appeler l'auteur nu. Hein. Bon voilà, puisqu'en fait c'est ça. Et que c'est une opération infiniment plus périlleuse pour lui, pour son œuvre, que le fait d'être seul, surtout, mais aussi, je dirais qu'elle est pratiquement aussi plus gratifiante, parce que l'auteur a son premier public, il n'y a rien entre son texte et le public que lui, que sa voix porteuse. Il n'y a pas de metteur en scène, il n'y a pas de mise en espace, il n'y a rien qui vient s'interposer. Donc, je veux dire, le texte est vraiment nu, quoi. Le texte est vraiment seul. Et en initiant, si vous voulez, mot d'auteur, c'est ça que j'ai voulu. Parce que je trouve que l'auteur en France, les auteurs morts en France se portent très très bien. Les auteurs vivants ont du mal à se porter eux-mêmes. Et surtout, ils ont du mal à vivre dans un monde où ils n'existent plus. Je dis toujours, je le redis, et malheureusement, je le redirai toujours, c'est qu'en 30 ans, l'Angleterre a fourni des auteurs parce que on les a encouragés, et qu'en France, on a fourni des metteurs en scène au détriment des auteurs. Alors, il se trouve qu'il y a des rencontres, il y a eu des rencontres. Mais... aujourd'hui, l'auteur est absolument, absolument seul. Et s'il va présenter sa pièce, que ce soit un directeur de théâtre principalement, si d'abord il demande qu'on lise sa pièce, d'abord personne ne lit, les autres, les directeurs de théâtre, les premiers d'ailleurs, sont les premiers à ne jamais lire un texte, la première question de toute façon qu'on pose, avant même la lecture, avec qui et qui met en scène? Ça veut dire que c'est à croire que les directeurs de théâtre, que les décideurs sont devenus des analphabètes. Ça veut dire qu'ils ne savent plus lire un texte, qu'il n'y a plus de directeurs lisant des textes. Donc, je trouve que exposer l'auteur à lire son propre texte et à se mettre à la fois en danger, mais c'est le danger, je vous dis, c'est le danger du fil de feriste. Une fois qu'il arrive au bout, il a en retour tout ce qu'il a donné et tout ce qu'il a mis dans son texte.
Alors, Vera Feder, même question qu'à Jean-Michel Ribes. Comment vous allez chercher, comment vous découvrez ces textes? Et vous allez peut-être nous donner un petit peu le détail des auteurs que l'on pourra entendre dans la cour du musée Calvé.
J'essaie, si vous voulez, de faire une palette, que ce soit un peu... Enfin, une palette, voilà. Une palette, un éventail. Donc, je pars d'un auteur... ou méconnu, ce qui était passé l'année dernière, donc qui était un jeune auteur qui s'appelait Olivier Chiacchiari, et à la suite de sa lecture, il est monté cette année dans le off, pour aller jusqu'à un nom plus connu et plus généralement connu. Donc l'année dernière, c'était Éric Emmanuel Schmitt, et cette année, donc nous terminons mot d'auteur avec Chantal Akerman, donc, qui est davantage connue comme cinéaste, mais qui est avant tout une créatrice, un écrivain, qu'elle écrive avec la caméra ou qu'elle écrive un texte. Donc si vous voulez, je commence avec, je ne dis pas le moins connu parce que je crois que Pietro est plus connu que je ne le crois d'ailleurs. Il est moins connu peut-être comme auteur que comme comédien. C'est lui qui ouvre le feu. Et si vous voulez, entre Pietro Pizzuti et Chantal Akerman, il y a donc Olivier Dutailly qui est un auteur confirmé, qui a écrit un texte qui est un texte original. Il y a Bernard Allaire, bon, qu'on ne présente plus, mais que je présenterai quand même dans des courts textes qui sont plus des textes dramatiques que des sketchs, disons. Après, nous avons Carole Fréchette, donc qui a été notre grand prix de la francophonie à la SACD. Et comme elle n'était pas présente au moment de la distribution des prix à SACD, donc nous lui remettrons ce prix, donc le 11. Après, il y a Louis-Charles Sirjac, qui est aussi un auteur confirmé, et donc Chantal Ackerman. J'ai l'impression que j'ai oublié quelqu'un.
Non, j'ai vérifié au fur et à mesure.
Très bien, parfait. Donc, j'ai passé l'oral.
L'idée de mêler comme ça des gens moins connus et un peu plus connus, même si Jean-Michel Ribes n'est pas toujours d'accord avec l'idée de connu ou pas connu, mais aussi l'idée d'un éventail d'écriture, différentes formes d'écriture dans les textes que vous présentez, dans les auteurs que vous présentez.
Mais comme les écrivains sont, enfin, je veux dire, comme les êtres sont différents, les écritures sont forcément différentes. Je pense qu'il y a rien. Ça aurait pu arriver qu'il y ait des choses qui se ressemblent, mais il y a rien qui véritablement se ressemble, en tout cas.
Il n'y a pas de côté chapelle d'un type d'écriture particulier que vous chercheriez à défendre.
Ah non, au contraire. Ce que je cherche à défendre, surtout, c'est avant tout, disons, voilà, justement, l'auteur dramatique. Celui qui écrit pour le théâtre, celui qui écrit des dialogues. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à ne jamais privilégier, pour ne pas dire plus d'ailleurs, les monologues, parce que je considère que d'abord ça fleurit absolument un peu partout. Je considère que quelqu'un qui sait écrire un monologue ne sait pas écrire une pièce. À l'inverse, un auteur dramatique qui sait écrire une pièce, qui sait écrire du théâtre, sait pratiquement écrire un monologue. Donc j'écarte de préférence le monologue qui à mon avis nous vient beaucoup, bon, on sait que Beckett en a écrit, hein, mais qui nous vient aussi beaucoup du café-théâtre. Et je trouve qu'aujourd'hui le théâtre a perdu sa dimension de théâtralité, j'entends dans l'écriture, hein, pas dans la mise en scène, et que c'est ça que je veux privilégier chez un auteur, c'est l'idée du théâtre, mais qui n'est pas du sketch, qui n'est pas du monologue, qui est véritablement la dimension créatrice de la dramaturgie, quoi.
Non, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que là c'est tout à fait restrictif. Sur il est évident que le monologue est une forme brève et pas forcément génératrice d'un auteur qui peut écrire autre chose, mais je pense que c'est faire peu de cas de cette forme, qui est une forme qui peut être aussi extrêmement brillante.
J'ai dit que ça fleurissait un peu partout. J'ai dit que ça fleurissait un peu partout. Je prends un exemple dans le Hof. Quand je regarde les spectacles du Hof, sur les, alors il y en a 600 paraît-il cette année. Bon, moi j'ai pas lu les 600, mais on trouve quoi? On trouve beaucoup de sketchs, on trouve beaucoup de café-théâtre, on trouve de la danse, on trouve de tout. On trouve très peu d'auteurs francophones, c'est-à-dire d'auteurs originaux. On trouve des adaptations de livres, des adaptations de nouvelles, on trouve des auteurs étrangers, on trouve tout ce qu'on veut. On trouve très peu d'écriture originale théâtrale. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Mais tu as raison. Ce que je veux dire simplement, c'est que le monologue est aussi le résultat d'une confrontation économique dure. C'est-à-dire que souvent, malheureusement, en effet, on dit il n'y a pas d'argent, tout ça. Donc beaucoup de gens s'expriment par monologue. Mais je tiens quand même à dire que souvent, enfin, pour ce qui est texte nu, c'est des auteurs qui ont écrit des pièces de théâtre, et non pas, comme le signale Vera, c'est-à-dire des auteurs qui ont une polyphonie d'écriture, qui ont une capacité à mettre en dramaturgie plusieurs personnages. Mais moi, je crois quand même que de faire une lecture avec un acteur qui lit 12 rôles, c'est difficilement recevable. Donc, ce que je crois d'intéressant, c'est qu'à partir du moment où l'auteur est un auteur de théâtre, c'est-à-dire qui a écrit plusieurs pièces avec des personnages, c'est de le faire découvrir à travers un texte qui permet de le ressentir pleinement dans son écriture, c'est-à-dire qui est lisible et écoutable, parce qu'il y a un ou deux rôles qui sont interprétables, et à partir de là, on va voir son œuvre, s'il y en a une.
Vous poursuivrez le débat.
Non, mais il n'y a pas de débat, mais je veux dire que le monologue est parfois... Oui. Voilà.
Vera Feder, vous êtes donc venu aujourd'hui avec Pietro Pizzuti, qui lui n'écrit pas un monologue, mais une pièce à trois personnages.
Oui.
Il vaut peut-être mieux qu'elle le dise. Hein.
Mais un petit peu pour ce que je disais, c'est-à-dire que Pietro à la fois a fait énormément de choses. Enfin, il est acteur depuis maintenant, acteur et auteur depuis, vous m'arrêtez si je me trompe, donc 20-25 ans. Il y avait aussi, si vous voulez, ce désir, puisque en fait, donc nous défendons les auteurs francophones. Il y avait aussi ce désir de Bernard Fèvre-Narcier que d'inclure donc dans la manifestation Mots d'auteur des auteurs de la francophonie. Donc Pietro Pizzuti, comme son nom ne l'indique pas, est belge, c'est-à-dire qu'il est belgo-romain. Donc il est né à Rome, il a fait ses études de théâtre à Bruxelles. Il est bilingue, il est en fait c'est un acteur et un auteur européen. Et donc j'avais un petit peu envie justement de prendre vous savez, enfin bon, vous le savez, bah oui, je ne veux pas faire un cours d'histoire. La Belgique, c'est le capi de l'Europe. Hein. Vous savez que la Belgique a été faite avec une partie de la Flandre, une partie de la France, une partie de la Hollande. Alors on peut dire que qui est vraiment belge, hein? Je veux dire, Chantal Akerman est belge. Bon, ben elle est belge avec des origines qui sont de l'Est. Enfin, et ça m'a toujours un petit peu amusé, si vous voulez, d'aller prendre des Belges qui ont à la fois un véritable ancrage dans le pays de leur langue, de la langue dans laquelle ils écrivent, et qui en même temps sont ouverts et restent au fond aussi des éternels apatrides. Donc il y a aussi cette idée-là. Et puis moi je connaissais Pietro Pizzuti, je l'avais jamais vu sur scène, je l'avais jamais lu, mais je le connaissais parce que vous savez les connaissances arrivent beaucoup plus par les ondes comme ça qu'on reçoit, donc je savais quand même qui il était, et donc j'ai trouvé intéressant de le mettre en début donc de ce que je disais de Mots d'auteur, et Chantal Akerman à la fin, et au milieu nous avons donc une Québécoise qui est Carole Fréchette.
Alors est-ce que c'est parce que la pièce s'appelle aussi La Résistante que c'est un bon début que vous l'avez choisi pour entamer cette série de mots d'auteur.
Alors là, petit rectificatif, puisqu'au départ, donc la pièce de Pietro devait s'appeler Les ailes de la nuit, et pour simplifier, si vous voulez, quand je l'ai lu, j'ai pensé qu'à 11h du matin, une pièce qui se passe entièrement sur le pont d'un paquebot à la nuit, je me suis dit, oh là là, il va falloir une préparation olfactive, sensitive, ça, qui peut-être va être difficile en plein soleil avec les cigales, tout ça. Donc j'ai demandé à Pietro cette chose extrêmement difficile, je lui ai demandé, donc c'était il y a à peu près 3 mois, je lui ai demandé d'écrire un texte pour. Donc c'est un texte absolument inédit, donc que moi seul ai lu, et donc c'est véritablement un inédit. Je dois aussi dire que c'est sans doute le texte le plus, qu'est-ce qu'on peut dire, de tout l'éventail. Au lieu de commencer par la couleur claire, on commence par la couleur noire. Voilà, c'est une pièce extrêmement noire, mais c'est une vraie pièce d'auteur.
Alors Pietro Pizzuti, Vera Feder a dit beaucoup de choses déjà.
Beaucoup de choses.
Que vous écriviez en français, que c'était une pièce noire et que c'était un inédit. La Résistante, en tout cas, c'est une pièce à 3 personnages, avec un personnage un peu énigmatique et un peu muet qui est un auteur.
C'est une femme qui essaye d'écrire, et comme l'écriture est souvent un voyage, c'est un voyage en soi, et puis vers quelque chose. Le but de l'écriture, de son écriture, à ce moment-là, c'est de se confronter à la barbarie et à l'horreur du monde dans lequel elle est inscrite et dans lequel elle écrit. Et voilà que les personnages qu'elle invente, ben se révolte, voilà, parce que ce sont des êtres fictifs, ceux-là, mais qui sont en fait les pantins d'autres êtres qui existent, à savoir, voilà, c'est un binôme, une femme enceinte, une femme qui porte la vie et un enfant soldat, voilà. Donc on est dans un contexte effectivement noir, mais je pense que ce qui m'était donné était trop beau. J'ai une grande dame de l'écriture qui me propose le défi de voilà d'écrire pour une lecture à une voix. J'ai dit ben voilà, mais alors du coup si je le fais, c'est pour interpeller ma question ma question qui est de dire que peut l'auteur d'aujourd'hui, l'auteur de théâtre avec ses mots, c'est peut-être pas la même chose pour un auteur un auteur qui écrit autre chose que du théâtre. Mais le théâtre est une parole, et que peut cette parole aujourd'hui sur des planches en bois par rapport à la barbarie du monde d'aujourd'hui, qui est pareille à celle du monde d'hier et qui devrait peut-être ne pas être tout à fait la même demain, mais que peut cette écriture-là aujourd'hui? C'était cette question-là que j'ai voulu tenter de d'aborder, voilà, dans le.
Mais
dans
pourquoi pièce avoir choisi le rôle d'une auteure, d'une
parce
femme,
que je
pour
suis
éviter
un homme,
l'autoportrait
parce que je suis un homme, voilà, masculin, féminin, et que je pense qu'il y a ce recul, je dirais, ouais, instinctif, inné, qui fait qu'on parle. J'aime bien prendre la parole en tant que femme. J'aime bien. Je ne peux le faire qu'à ce moment-là, que dans l'écriture, que dans l'imaginaire, et voilà. Et puis j'ai l'impression qu'une écriture, qu'une femme qui s'engage comme ça, elle le fait aussi parce que physiologiquement elle porte la vie, et que c'est cette vie-là qu'il faut pas interrompre. Et qu'à travers cette écriture, elle se demande, elle, comment l'héroïne, son héroïne, à savoir celle qui est mise dans un contexte affreux, un contexte de guerre, un contexte de violence, comment elle va s'échapper de ça et comment elle va réussir à imposer sa vie et celle qu'elle porte à travers l'horreur. Donc, il fallait que ce soit deux femmes. Je pense que c'était important parce qu'elles savent de quoi elles parlent toutes les deux à ce niveau-là.
C'est votre combientième pièce, là?
Combientième? Écoutez, mon écriture, en fait, est liée aux planches. J'ai eu cette chance, tout à fait, oui, c'est une belle chance d'auteur, d'avoir eu toujours une étincelle et une envie qui rencontrait celle de quelqu'un d'autre, pour que ça naisse en scène. Et on sait que l'écriture du théâtre, c'est pas des pages remplies, et qui, bon, si elles s'éditent et si elles se lisent, c'est miracle et c'est très bien. On l'a assez dit là tout à l'heure, on lit pas assez, puis on a du mal, effectivement. Mais moi, j'ai eu cette chance là et donc mes écritures, ce que j'ai osé écrire pour les planches, j'ai la chance d'être comédien, donc je connais un petit peu, et je pense que l'aventure de la lecture à une seule voix est fantastique. Je serai donc le premier comédien à lire. Vera m'a fait le cadeau d'être le premier auteur à lire, et moi je serai le premier comédien à me lire demain. Mais voilà, c'est je sais pas, ça doit être la quatrième. Je ne sais pas si elle vivra sur les planches, mais je l'ai écrite pour qu'elle vive demain, en tout cas. Et puis on verra bien. Ça doit être la quatrième.
Pour une seule représentation.
Voilà, une seule lecture. Ouais.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Quelques questions dans la salle? Non. Eh bien, écoutez, merci. Voilà, vous avez tout dit. Merci beaucoup. Bonne lecture donc au musée Calvé, le 7 à 11h.
Oui.
Précise.
Oui, avec les pas de cigales encore à cette heure-là, je crois.
Si, déjà. Très bien. Les premiers chants des cigales.
Très bien.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à demain.